Bonjour, mes frères. Passons maintenant au message. Ouvrons d'abord l'Évangile selon Jean, chapitre 13. Nous allons lire Jean 13, verset 35 pour commencer le message, en allant directement à un passage des Écritures. Allons à Jean 13, 35. Un verset populaire, un verset à mémoriser, un verset que nous connaissons tous, ou que nous devrions connaître, ou que nous avons tous entendu d'une manière ou d'une autre à plusieurs reprises, soit ici dans l'Église de Dieu, soit avant que nous y soyons appelés, nous avons probablement entendu ce verset également. C'est un verset très populaire. Lisons-le. En fait, commençons par le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il se répète. Verset 35. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un verset important, un verset crucial, un verset qui nous donne des instructions claires sur ce que nous devons faire les uns pour les autres, les uns envers les autres. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir ce que Paul a écrit en détail sur la viande offerte aux idoles. Je sais ce que vous pensez tous, car j'ai essayé cela chez moi et cela a fonctionné. Oui, j'ai essayé cela chez moi. J'ai parcouru cela, et la première réaction que j'ai eue a été, quoi? Ces deux choses vont-elles ensemble? Comment ce verset? Le verset 35. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, est-il lié à la viande offerte aux idoles? Eh bien, nous allons l'apprendre aujourd'hui. En fait, ils sont liés. Nous allons découvrir un certain aspect de la manière dont nous devons nous aimer les uns les autres. Comment s'articulent-ils? Comment vont-ils ensemble? Eh bien, aujourd'hui, nous allons l'apprendre. Comme je l'ai mentionné, Paul s'est longuement occupé des frères, tant à Corinthe qu'à Rome, il a écrit à ce sujet, à propos de la question de la viande offerte aux idoles. À une autre époque, à une autre période, l'Église du premier siècle vivait dans une société complètement différente de la nôtre aujourd'hui. Si vous vous penchez sur l'histoire de la ville de Corinthe, vous verrez que Corinthe était imprégnée d'idolâtrie, avec des temples, romains ou grecs, dédiés à diverses divinités. Cela faisait partie intégrante du mode de vie des habitants de la ville avant qu'ils ne soient appelés. Cela faisait partie de leur vie quotidienne. Vous l'avez vu se produire. Vous l'avez vécu. Vous l'avez vécu avant d'être appelé. Et ce culte des idoles, cette implication avec les dieux grecs et romains, n'était pas seulement pour le culte. C'était pour le travail. C'était pour le réseautage. Si vous vouliez faire des affaires, si vous vouliez faire partie de ceux qui étaient dans le coup, si vous vouliez obtenir des emplois auprès de ceux qui avaient des emplois, vous étiez là, au temple. Vous étiez là lors des sacrifices. Vous étiez là lors des banquets, des festivités, des fêtes. Vous deviez être là si vous vouliez avoir une vie décente dans la ville de Corinthe. C'était donc proche des frères, comme on les appelait. Ils en avaient fait l'expérience. Et ce à quoi Paul était finalement confronté, nous allons nous tourner vers les Écritures et nous y plonger, pour vraiment comprendre ce qu'il écrivait. Mais comme les frères ont été appelés, et cela vaut peut-être aussi pour vous et moi, lorsque nous avons été appelés, nos yeux se sont ouverts. Nous voyons la vérité. Nous savons ce que Dieu attend désormais de nous. C'est presque comme si nos yeux s'étaient ouverts. C'est le jour et la nuit. Nous ne comprenions pas. Nous avions les yeux bandés, puis le bandeau a été retiré et nous avons vu la lumière. Nous voyons le jour. Nous voyons clairement. Et c'est ainsi que certains frères l'ont vu. Ils ont vu, tout à coup, que j'étais libre. Ces idoles ne signifient rien. Ces sacrifices ne sont rien. Je suis libre. Cela ne me dérange plus. Et puis il y en avait quelques-uns qui avaient encore une conscience, qui étaient encore un peu dérangés par cela. Nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans la même position. Et Paul s'est occupé de cela. Passons donc à la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Nous allons lire et analyser la première série de versets, puis nous passerons à d'autres passages pour étayer ce dont nous parlons. Mais passons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Nous allons parcourir tout le chapitre. Mais ici, Paul commence à discuter et à travailler sur ce à quoi les frères étaient confrontés. Comment, dans certains cas, il y avait deux camps différents. Il y avait deux groupes de frères différents dans la congrégation. L'un, que nous allons peut-être lire, avait beaucoup de connaissances et était libre. Et il y avait ceux qui cherchaient encore à comprendre, qui cherchaient à grandir dans la vérité. Et comment ces deux groupes de frères travaillaient-ils ensemble? Commençons par lire le verset 1 du chapitre 8 de la première épître aux Corinthiens. Maintenant, en ce qui concerne les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité, mot ancien anglais, que vous pouvez aussi remplacer par amour, mais l'amour édifie. Pensez au premier verset que nous allons lire cet après-midi. Maintenant, en ce qui concerne les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance, et la connaissance enfle, mais la charité, l'amour édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait encore rien comme il devrait le savoir. Paul commence à exposer son point de vue. Paul commence à se mettre en place, à nous mettre en place. En fin de compte, il y a des leçons à tirer de cela. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait encore rien, simplement parce qu'il a la connaissance, simplement parce qu'il sait. Applique-t-il correctement cette connaissance? Utilise-t-il correctement cette connaissance? Eh bien, nous allons l'apprendre. Verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Nous commençons ce message en parlant de cela. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alors, que faisons-nous? Comment aimons-nous Dieu? Comment aimons-nous notre frère? Paul fait étroitement le lien entre ces deux points. Verset 4. En ce qui concerne donc la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le seul Dieu. Paul affirme clairement que ces idoles qui faisaient partie intégrante de la vie des Corinthiens, ces sacrifices, ne sont rien. Bien sûr, passons à Habacuc 2, verset 18. On pourrait supposer, ou penser, que ces versets et d'autres similaires ont peut-être été enseignés lors du service du sabbat à Corinthe, qu'ils ont peut-être été cités. Ils ont peut-être déjà entendu cela dans Habacuc 2, verset 18. Donc, dans une certaine mesure, ce que Paul va aborder, les frères auraient dû l'entendre, les frères auraient dû le savoir. Et je dirais les frères des deux côtés de l'équation, ceux qui avaient la connaissance et ceux qui ne l'avaient pas. Mais ils auraient dû entendre ces versets, et nous en verrons quelques autres tout au long du texte. Mais nous voici dans Habacuc 2, verset 18, et quel profit l'image taillée! Quel profit l'idole! Quel profit! Que son faiseur l'a taillée! Son faiseur, qui les fabrique, l'homme les fabrique. L'image en fonte est l'enseignant de mensonges, que le faiseur de son œuvre y met sa confiance pour faire des idoles muettes. Ainsi, le fabricant qui sculpte l'image en bois, le fabricant qui fond le fer, l'or, le bronze ou l'argent, et qui fabrique cette image, l'image en métal fondu, et un enseignant de mensonges, le fabricant de son œuvre suffit pour fabriquer des idoles muettes. Nous avons donc entendu cela ici. Les Corinthiens ont entendu cela. Nous avons entendu cela. Ce ne sont que des idoles muettes. Elles ne sont rien. Malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi. À la pierre muette, lève-toi. Elle enseignera. Voici, elle est recouverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun souffle au milieu d'elle. Alors pourquoi certains avaient-ils encore des difficultés s'ils avaient entendu cela? Ou un passage similaire dans un message? Revenons aux Corinthiens. Ils auraient dû savoir. Ils auraient dû entendre. Cela aurait dû leur être expliqué. D'autant plus que nous savons que certains, les yeux ouverts, ont la connaissance. Ils comprennent que cela ne signifie rien. Et Paul leur écrit et leur rappelle que ces idoles ne sont rien. Ces sacrifices, en fin de compte, sont destinés à un tas de pierres. Il n'y a rien là-dedans. Nous continuons. Nous nous sommes arrêtés au verset 5 ou au verset 4. Lisons maintenant le verset 5. Un peu plus de contexte. Car, bien qu'il y ait ceux qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a de nombreux dieux et de nombreux seigneurs. Passons au verset 6. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et nous sommes en lui. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses, et nous sommes par lui. Le Père et Christ font partie intégrante de qui nous sommes, de notre vocation et de notre être. Que disait le verset 5 ? Il y a beaucoup de ceux qui sont appelés dieux. Il y a des dieux partout dans le monde. Passons à Exode 20. Passons aux 10 commandements. Tous les dieux qui existent dans le monde. Que nous rappelle Dieu ? Que nous rappelle Paul ? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Passons à l'Exode, chapitre 1, verset 3. Le début des 10 commandements. Nous le connaissons tous, mais il est simplement énoncé. Il devrait servir de rappel. Les Corinthiens le connaissaient certainement. Ils connaissaient certainement les 10 commandements. Bien sûr qu'ils les connaissaient. Nous les connaissons. Ils les connaissaient. Ce n'est pas une nouveauté. Ils trébuchent. Parfois, nous pouvons également trébucher de la même manière. Exode 20, verset 3. Commençons par le verset 1. Dieu prononça toutes ces paroles, en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Nous lisons cela d'une certaine manière dans Corinthiens. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est donc notre Dieu, le Dieu que nous servons. Il est miséricordieux et juste, mais nous ne devons pas avoir d'idole. Nous ne devons pas avoir d'image taillée. Nous ne devons pas nous prosterner devant elle. Revenons maintenant à l'épître aux Corinthiens. Vous avez un marqueur. Vous devriez le mettre là. Donc, ici, encore une fois, juste le deuxième commandement, pas d'idole. Nous le savons tous. Les Corinthiens le savaient. Que se passait-il ? Que se passait-il dans leur esprit ou avec quoi luttaient-ils? Oui, beaucoup avaient acquis de nouvelles connaissances. Ces idoles n'étaient rien. Pour eux, c'était une nouvelle connaissance, car ils avaient été appelés à la vérité. Et c'est ce que je veux dire. Ils comprenaient qu'ils étaient libérés de ces idoles. Ils avaient cette connaissance. Il y en avait peut-être certains qui considéraient le deuxième commandement et s'y tenaient comme nous devrions tous nous y tenir, et qui ne pouvaient avoir aucun rapport avec quoi que ce soit provenant de ces idoles. Paul explique, et Paul explique la position qu'ils avaient, une position que nous devrions tous avoir. En fait, lisons le verset 7. Et je trouve cela un peu amusant. Peut-être que Dieu, dans sa parole et son inspiration qui a poussé Paul à écrire cela, s'amuse un peu avec nous et avec les Corinthiens. Et je veux dire s'amuser dans le sens où il était un peu agacé. Vous devriez savoir ces choses. Vous devriez comprendre ce qui se passe. Et cela ne devrait pas être un problème. Lisons. Verset 7. Cependant, comment est-ce possible? Comment devons-nous interpréter cela? Pourquoi? Parfois, vous prenez conscience de la vie et vous vous posez ces questions. Pourquoi sommes-nous ici? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi devons-nous faire face à cela? Cela aurait dû être réglé depuis longtemps. C'est Paul. C'est Dieu qui écrit, inspirant sa parole pour qu'elle soit écrite de cette manière. Cependant, tous n'ont pas cette connaissance. Cependant, tous n'ont pas cette connaissance que la viande offerte aux idoles n'est offerte à rien. Elle est offerte à un rocher. Car certains, ayant encore la conscience de l'idole, la mangent comme une chose. La mange comme une chose. La mange comme si elle était impure. Comme une chose offerte à une idole, et leur conscience, étant faible, est souillée. Paul montre donc un peu la nature humaine, pourrait-on dire, ou peut-être est-ce la nature de Dieu qui dit que nous devrions déjà être à ce stade. Nous devrions avoir dépassé cela. Pourquoi sommes-nous encore bloqués là-dessus? Passons au psaume 119. Ce que nous sommes censés être. Ce que vous et moi sommes censés être. Pourquoi une telle chose ne devrait-elle pas poser de problème comme cela a été le cas à Corinthe? Passons au psaume 119, verset 165. Nous sommes ici à Corinthe. À Corinthe, vous avez des frères, nous allons le lire, qui mangent de la viande sans se soucier de la réaction de leurs frères. Et puis il y a des frères qui ne peuvent pas croire qu'un autre frère mange réellement de la viande. Si nous suivons Dieu et que nous aimons tous ses commandements, lisons le psaume 119, verset 165. C'est un verset puissant et un rappel. Ceux qui aiment ta loi jouissent d'une grande paix. Nous devrions tous jouir d'une grande paix. Nous tous qui aimons la loi de Dieu, qui aimons les instructions de Dieu, qui aimons les commandements de Dieu, qui aimons toute sa parole. Une grande paix, vous et moi devrions tous avoir. Nous lisons dans Corinthiens qu'il n'y avait pas cette paix. Pourquoi? Peut-être parce que tout le monde n'aimait pas sa loi. Toutes ses lois, tous ses commandements. Et rien ne les offensera. Nous aborderons cette question dans un instant. Mais rien ne les offensera. Expliqué dans une certaine mesure. Il y a deux camps ici dans les Corinthiens. Ceux qui mangent la viande sans conscience et qui s'en vantent un peu. Ceux qui sont offensés qu'ils mangent la viande. Et je suis presque sûr que ceux qui ont la connaissance sont en quelque sorte offensés que les autres soient également offensés qu'ils ne mangent pas la viande, ou qu'ils mangent la viande. Cela va dans les deux sens. Mais si nous aimons la loi de Dieu, dans une situation similaire, cela se produit dans nos vies, nous pouvons nous retrouver d'un côté ou de l'autre. Nous ne devrions pas être offensés. Cela ne devrait pas nous déranger en aucune façon. Et c'est là que Paul entre en jeu. Revenons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Nous venons de lire le verset où Dieu dit, « Cependant, nous sommes toujours là. » Et leur conscience, étant faible, est souillée à la fin. Verset 8 « Mais la viande ne nous condamne pas devant Dieu. Car si nous mangeons, nous ne sommes pas meilleurs, et si nous ne mangeons pas, nous ne sommes pas pires. » Paul interpelle donc les deux camps, les deux côtés de la question, dans sa lettre aux Corinthiens. Si vous mangez, êtes-vous meilleur? Non. Si vous ne mangez pas, êtes-vous meilleur? Êtes-vous pire? Non. Ni l'un ni l'autre. C'est une question de conscience. C'est une question de foi. Nous allons apprendre. Verset 9. Continuons à lire le chapitre. Mais prenez garde que cette liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Il interpelle donc ceux qui ont la connaissance. Ceux qui ont la connaissance mais qui ne l'appliquent peut-être pas aussi bien qu'ils le devraient. Ceux qui n'ont peut-être pas cet amour et cette attention pour leurs frères, comme nous le lisons dans Jean. Ils sont une pierre d'achoppement pour les faibles. Allons dans le Lévitique. Les pierres d'achoppement. Nous allons lire quelques passages. Mais pour le premier, allons dans le Lévitique 19. Remarquez que c'est presque une des lois physiques de Dieu, ses statuts. Mais Dieu déteste les pierres d'achoppement. Vous faites trébucher un frère. Vous faites trébucher un frère par vos actions. Cela peut être de part et d'autre. C'est souvent le cas. Cela peut être de part et d'autre d'une situation. Ici, Paul parle de la viande offerte aux idoles. Ceux qui ont la connaissance et qui la mangent de manière incorrecte font trébucher leurs frères. Que dit Dieu à propos des pierres d'achoppement? Verset 14. Tu ne maudiras point le sourd, et tu ne mettras point de pierre d'achoppement devant l'aveugle. Eh bien, si votre frère ne peut pas voir quelque chose, si votre compagnon avec lequel vous allez au culte ne peut pas voir quelque chose, n'est-il pas aveugle? C'est parfois le cas. Nous ne pouvons pas tous voir la même chose que tout le monde. Nous ne sommes pas tous dans la même situation que les autres. Certains d'entre nous ont été appelés depuis des années, voire des décennies. Je sais que certains d'entre nous, dans cette salle, ont été baptisés récemment. Ils viennent seulement de commencer leur cheminement. Ils commencent seulement à apprendre. Peut-être que leurs yeux commencent seulement à s'ouvrir sur certaines questions. Mais que dit Dieu? Tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle. C'est un commandement. Si nous faisons cela, que ce soit littéralement, et ici nous parlons de le faire spirituellement, ou de le faire par nos actions, nous enfreignons l'un des commandements de Dieu. Dans un certain sens, nous péchons. Si nous faisons cela, c'est grave, c'est sérieux. C'est ce dont Paul parle ici. Nous voulons aider nos frères. Nous voulons aider ceux qui n'ont peut-être pas l'expérience de l'Église, qui n'ont peut-être pas les connaissances. Ils n'ont peut-être pas encore compris. Comme ici, dans les Corinthiens, la viande offerte aux idoles n'avait plus aucune signification. Votre appel dans le Saint-Esprit et vos études auraient dû montrer à ceux de Corinthe que cela n'avait plus d'importance. Tout allait bien. Mais ils ont encore du mal à l'accepter. Et ceux qui avaient la conscience tranquille et qui n'étaient plus gênés par cela auraient dû être plus circonspects. Ils auraient dû regarder un peu plus autour d'eux. Ils auraient dû se soucier un peu plus des autres. Relisons le verset 9. Dans Corinthiens, et revenons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Mais prenez garde que cette liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Je tiens à souligner une chose ici. Oui, le mot « faible » dans notre langage courant peut être péjoratif. Il peut être assez blessant. Mais regardons les choses en face. Il s'agit d'un frère, d'une sœur, d'un membre de votre communauté avec lequel vous assistez aux offices, qui apprend, qui grandit, qui n'a peut-être pas la même expérience ou la même vision que vous. Travaillez avec eux. Aidez-les. Ils ne sont pas faibles dans le mauvais sens du terme. Ils sont faibles dans le sens où ils grandissent. Ils apprennent. Continuons avec le verset 10. Continuons notre lecture. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas encouragée à manger des choses offertes aux idoles? Ici, Paul et les écrits de Paul sont compliqués. Il y a beaucoup de mots. Beaucoup de sens. Il essaie de couvrir beaucoup de choses en un seul verset. Relisons-le. Si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas encouragée à manger ces choses qui sont offertes aux idoles? À manger ces choses. Peut-être votre bon exemple. Paul aborde cette question de plusieurs façons. Votre bon exemple incite en fait un autre membre à pécher parce que, pour vous, cela n'avait pas d'importance. Pour vous, vous deviez peut-être être là pour affaire, et vous vous en êtes tenu à cela. Vous n'êtes pas allé là-bas pour adorer les idoles. Vous avez pris un repas, puis vous êtes parti. Mais un autre membre vous a vu là-bas. Et leur conscience les empêche de faire cela. Et votre bonne action peut maintenant les pousser à pécher. Les pousser à enfreindre leur conscience. Verset 11. Et par ta connaissance, ton frère faible, pour lequel Christ est mort, périra-t-il? Christ est mort pour tous nos péchés. Pouvez-vous imaginer que vous pourriez faire quelque chose qui causerait la perte d'un frère? Par vos actions? Pouvez-vous imaginer ce qui se passait à Corinthe? Nous avons tant à apprendre. Tant à appliquer dans nos vies. Pour nous assurer que nos actions ne causent pas cela. Parfois, nous pouvons nous trouver dans une situation différente de celle d'un frère, et cela peut l'amener à pécher. Un frère faible devrait périr pour qui Christ est mort. Pouvez-vous imaginer à quel point c'était grave? À quel point Paul prenait cela au sérieux? Et verset 12. Mais quand vous péchez ainsi contre les frères et que vous blessez leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est très grave. Vous êtes peut-être libre, vous avez peut-être la connaissance, mais votre connaissance peut affaiblir un frère. Le pousser à pécher. En réalité, vous péchez contre Christ. Vous péchez contre celui qui est mort pour que nous puissions vivre. Verset 13. Attendez un instant avant d'y arriver. Prenez juste un moment pour réfléchir à ce que nous venons de lire, repassez les derniers versets que nous venons de lire. Les derniers versets que nous venons d'examiner. À quel point nos actions sont graves pour nos frères. Allons-y un peu plus doucement, je suppose. Prenons un exemple. J'ai eu une discussion récemment. C'était une bonne discussion. C'était une discussion qui a permis d'affûter le fer. Elle portait sur la question suivante, faut-il accepter des cadeaux de Noël? Je sais que la saison est passée. Une autre saison s'annonce, la saison mondaine. Cette saison est passée. La question se pose. Faut-il accepter des cadeaux de Noël? Nous avons longuement discuté de la question. Et voici où cela s'applique. Je suis l'un d'entre eux. Dans les bonnes circonstances, lorsque la personne ne connaît peut-être pas mes convictions, ne sait pas ce que je garde, ne comprend pas mes positions, ne comprend pas ce à quoi j'ai été appelé. Si elle m'offre une boîte de chocolat, disons qu'il s'agit d'un fournisseur. Nous faisons cela en réalité. Cela arrive parfois ici, au siège social. Certains fournisseurs nous envoient une boîte de chocolat vers la fin de l'année. Et pour moi, devinez quoi? C'est du bon chocolat. Je l'apprécie. Le personnel l'apprécie. Nous l'apprécions tous. Non, nous ne le renvoyons pas. Non, nous l'apprécions. Ce n'est que du chocolat. Mais certains fournisseurs voulaient nous remercier pour le travail que nous leur avons permis d'accomplir dans l'œuvre de Dieu pendant l'année. Parfois, nous nous rencontrons, nous en discutons, nous parlons de l'année écoulée et de l'année à venir, nous les remercions pour leur service et nous nous réjouissons de travailler ensemble pendant une année supplémentaire. Eh bien, dans les discussions que j'ai eues, où j'ai mentionné que le fer aiguisait le fer, que nous apprenions tous les deux ensemble, c'était comme si non, vous ne pouviez pas recevoir cela. Eh bien, le vendeur n'en a aucune idée. Mais voici les versets que nous venons de lire. Si je me trouve ici avec un collègue sur le campus de Dieu, et que je sais que ce collègue aurait des difficultés, parce que nous en avons parlé plus tôt, c'est cette période de l'année, et qu'il aurait du mal à recevoir un cadeau comme celui-ci. Je ne l'accepterai pas. Je ne pourrai pas l'accepter. Même pour moi, cette boîte, c'est juste une façon de prendre la situation à la légère. Ce n'est qu'une boîte de chocolat. Pour moi, c'est tout ce que c'est. Mais si un collègue se tient à mes côtés, lors d'une rencontre avec le fournisseur, et que la conscience de ce collègue ne lui permet pas d'accepter un cadeau de Noël, quel qu'il soit, je ne l'accepterai pas. Je ne veux pas qu'il trébuche. Vous ne voudriez pas qu'il trébuche. Parce que cela le dérange si je l'accepte, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas le prendre. Oui, ce n'est pas le cas. C'est un exemple théorique. Oui, lui aussi, ce collègue aurait besoin d'apprendre. Ce collègue, ce membre du personnel, dans l'œuvre de Dieu, aurait besoin d'apprendre un peu aussi. Et il y a d'autres situations où cela pourrait être un moment d'apprentissage. Je recevais la boîte de chocolat du vendeur. Nous discutions. Il repartait. Puis je m'assurais qu'elle soit jetée, car elle aurait pu offenser un membre du personnel. Ce n'est pas du tout le cas. C'est ainsi que cela pouvait être géré. Maintenant, il y a certaines choses. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. Voici le cas de Paul. Vous savez tous, ou du moins beaucoup d'entre vous, que j'avais de la famille qui venait autrefois avec nous. Ceux qui participaient avec nous. Qui vivaient selon le mode de vie de Dieu. S'ils m'envoyaient un cadeau de Noël, vous imaginez? Je ne peux pas l'imaginer. Mais disons qu'il l'ait fait. Disons qu'un de mes frères ou ma sœur m'ait envoyé un cadeau de Noël. Devinez quoi? Je le renverrai immédiatement. Sans poser de questions. Sans poser de questions. Oh, je le renverrai. Je l'accompagnerai peut-être d'un mot ou deux. Mais peut-être pas. Je réfléchirai peut-être à deux fois. Mais je le renverrai sans aucun doute. Il n'y a aucune chance que j'accepte un cadeau de Noël de leur part. Ils le savent bien. Ils l'ont toujours su. Peut-être l'ont-ils oublié, comme c'est souvent le cas. Mais je le renverrai immédiatement. Je ne pourrai en aucun cas, en toute conscience, l'accepter. Il y a un temps et un lieu pour tout. Ici, nous apprenons avec Paul quelque chose qui est en fait extrêmement important pour les Corinthiens. Trouver l'équilibre, trouver la compréhension. Peu importe de quel côté de l'équation vous vous trouvez, vous pouvez accepter les cadeaux de Noël. Peu importe de quel côté de l'équation vous vous trouvez, nous avons tous quelque chose à apprendre. Si vous ne pouvez pas recevoir de cadeau, ce message vous apprendra quelque chose. Si vous êtes prêt à recevoir tous ces cadeaux, vous apprendrez également quelque chose. Continuons au verset 13. C'est peut-être notre verset préféré après une étude biblique, notre verset préféré après avoir préparé un message. C'est ce qu'il est pour moi. Verset 13 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Si donc la viande fait pécher mon frère, écrit Paul. Paul expose tout ici. Paul ouvre son cœur à vous, à moi et à tous ceux qui ont déjà lu ce passage. Je ne mangerai pas de viande tant que le monde existera, de peur de faire trébucher mon frère. C'est sérieux. Réfléchissez-y bien. Je ne mangerai pas de viande tant que le monde existera. Nous savons et comprenons que Paul n'est pas ici pendant le premier royaume. Il viendra au début du millénium. Mais imaginez s'il était là pendant ce premier royaume. Pendant tout ce qui se passera à cette époque, et pour tous ceux qui seront appelés à ce moment-là, il ne mangera pas de viande. Il ne mangera pas de viande si cela fait trébucher un frère. Laissez cela pénétrer votre esprit. Passons maintenant à 1 Corinthiens 10. Cela fait peut-être plus d'une page pour vous. Nous allons lire quelques versets supplémentaires de Paul où il expose cela. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Et ici, plus loin dans le chapitre, au verset 19. Il dit, « Que dis-je donc ?» Il poursuit sur le même sujet, après avoir abordé quelques autres points entre-temps. « Que dis-je donc ? Que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est offert en sacrifice aux idoles est quelque chose ?» C'est rhétorique. Est-ce quelque chose ? Il l'a déjà dit. Mais je dis que ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient aux démons et non à Dieu. Et je ne voudrais pas que vous ayez de communion avec les démons. Verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Passons à Apocalypse 12, verset 14. Paul pose donc quelques bases. Il établit ici certains paramètres. Il y a des limites à ce que vous pouvez faire. Je vais vous donner un petit exemple qui peut s'appliquer à notre époque. Oui, un cadeau de Noël d'une famille. Il n'est pas reçu, il est renvoyé. Un cadeau de Noël d'un vendeur. Je le recevrai peut-être, selon qui est présent. S'il y a un frère qui ne voit pas les choses de cette façon, je ne le recevrai pas. Mais ici, Paul montre, et nous le savons, que certaines époques ont été confrontées à ce problème. Certaines époques n'ont pas su fixer de limites, n'ont pas su voir que le réseautage allait un peu trop loin. Le service ou le repas qu'ils partageaient avec les autres allait un peu trop loin. Passons à Apocalypse 12, verset 14. Voilà, mais j'ai quelques reproches à te faire, car nous parlons de Pergame, car tu es là des gens qui suivent la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Encore une fois, la pierre d'achoppement apparaît. Devant les enfants d'Israël, à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la débauche. Passons au verset 20, une autre époque. Néanmoins, j'ai quelques reproches à te faire, car tu tolères cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et qui enseigne et séduit mes serviteurs, les incitant à se livrer à la fornication et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Deux époques sont donc peut-être allées un peu trop loin, n'ont pas tenu bon. Oui, il n'y a rien de mal à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, un repas n'est qu'un repas, jusqu'à ce qu'il devienne plus que cela, jusqu'à ce qu'il soit plus que cela. Certains frères ont eu du mal à accepter cela. Nous venons de lire dans l'Apocalypse deux époques qui ont eu du mal à accepter cela, qui se sont peut-être un peu trop impliquées dans les fêtes et les banquets qui se déroulaient, et qui ont dû changer de cap. C'est difficile. Cela a été difficile pour eux. À notre époque, revenons à Corinthiens 10, lisons le verset 20, provoquons-nous la jalousie du Seigneur. Sommes-nous plus forts que lui? Sommes-nous plus forts que Dieu? Le provoquons-nous à la jalousie? Passons à Exode 34, verset 14. Mais si nous allons trop loin, si nous commençons à brouiller les pistes, ce n'était pas seulement un repas, ce n'était pas seulement un morceau de viande que nous avons acheté au magasin, nous sommes allés trop loin. C'est là que les choses ne pouvaient pas aller plus loin. Nous devons faire de même dans nos vies. Nous le savons. Nous le voyons chaque jour dans nos vies. Où que nous travaillions, il y a certaines choses que nous pouvons faire, et il y a certaines choses où il est temps de trouver discrètement la sortie et de rentrer chez soi. Dans Corinthiens, nous lisons dans l'Apocalypse, nous avons lutté avec cela. Nous aussi, dans l'Église de Dieu, je suis sûr que nous le faisons. Il y a certains paramètres. Et notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il veut que nous ne servions que lui. Il ne veut pas que nous mélangions notre communion, notre culte, avec d'autres. Revenons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Si vous avez la connaissance, tout vous est permis. Et tout n'est pas utile dans le monde. Le monde prendra cette écriture et nous donnera une licence. Ce n'est pas ce que Paul dit. Il parle d'un sujet précis. Il parle de certaines choses que nous pouvons voir un peu différemment ou que nous n'avons pas encore comprises. Mais que dit-il? Tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. J'ai donc écrit à côté de ce verset, j'ai rayé la richesse. Que personne ne cherche son propre intérêt. C'est ce que Dieu souligne ici par l'intermédiaire de Paul. Que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne se vante de sa propre liberté. Veillez au bien-être les uns des autres. Prenez soin les uns des autres. Continuons notre lecture au verset 25. Tout ce qui se vend à l'abattoir, mangez-le sans poser de questions, pour des raisons de conscience. C'est ce que nous comprenons ici. Une petite instruction. Ne posez pas de questions, quoi qu'il arrive. Ne posez tout simplement pas de questions. Allez au marché, achetez de la viande, commandez de la viande et mangez-la. Ne posez pas de questions. Ne laissez pas cela troubler votre conscience. Car la terre est au Seigneur, ainsi que tout ce qu'elle renferme. Verset 26. Nous allons continuer la lecture au verset 27. Si l'un de ceux qui ne croient pas vous invite à un festin, et que vous êtes disposé à y aller, mangez de tout ce qui vous est présenté, sans poser de questions pour des raisons de conscience. Ne posez donc aucune question pour des raisons de conscience. On vous sert. Si on vous invite à dîner, on vous invite à sortir. Et en tant que personne qui n'appartient pas à l'Église, ici à Corinthe, vous ne posez aucune question pour des raisons de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice aux idoles, ne mangez pas, à cause de celui qui vous l'a signalé et pour l'amour de votre conscience. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient. Maintenant, si votre hôte vous dit, oui, cela a été sacrifié aux idoles, et qu'il sait que vous êtes croyant, et qu'il sait que vous êtes dans la vérité, vous ne pouvez pas manger cela. Parce que vous ne voulez pas qu'il se pose des questions à votre sujet. Êtes-vous dans la foi? Êtes-vous sûr de vos croyances? Parce qu'il peut ne pas comprendre pourquoi vous pouvez manger cela. Il dit, eh bien, il y a peut-être d'autres invités qui sont membres. Et maintenant vous savez, et maintenant vous ne pouvez pas. Verset 29. Je dis que la conscience n'est pas la tienne, mais celle des autres. Pourquoi ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autre homme? Verset 30. Si je participe à la grâce, pourquoi suis-je calomnié pour ce dont je rends grâce? Donc ma connaissance, la connaissance de Paul. Pourquoi voudrait-il être calomnié? Pourquoi voudrait-il amener son hôte à douter de ses croyances ou un autre membre à pécher contre Christ? Il ne voulait pas cela. Nous ne devrions pas vouloir cela. Quand d'autres exemples nous correspondent à notre époque. C'est pourquoi, quand vous mangez, verset 31, c'est pourquoi, quand vous mangez ou buvez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ici, au verset 32, Paul développe cette idée. Ne donnez aucun scandale, ni aux Juifs, ni aux païens, ni à l'Église de Dieu. Ainsi, lorsque je reçois ce cadeau à la fin de l'année, je ne veux pas scandaliser l'Église de Dieu. Je ne veux pas qu'un fournisseur ait une mauvaise opinion de nous. Je veux juste que ce soit une journée normale. Je ne veux pas lui donner de raison de s'offenser. Pourquoi? Je voulais simplement vous remercier de m'avoir permis de travailler avec vous. En un sens, il dit merci pour l'argent qu'il a gagné. Nous n'acceptons pas cela. Non, nous ne voulons pas offenser l'Église de Dieu. Nous ne voulons pas offenser les païens, ni les juifs, ni nos frères et sœurs. Verset 33. De même que je cherche à plaire à tous en toutes choses, ne recherchant pas mon propre intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. En fin de compte, pour nous assurer que toutes nos actions, la manière dont nous nous assurons de nous aimer les uns les autres, sont au profit du salut de tous. Que nous ne faisons trébucher aucun d'entre nous, les uns les autres, et la manière dont nous réagissons à certaines choses. Passons à Romains. Romains 14. Le dernier passage où Paul aborde ce sujet en détail. Romains 14. Verset 12. Nous commencerons par celui-ci. Ainsi, chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Nous comparaissons devant Dieu. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugeons plutôt qu'il ne faut pas mettre une pierre d'achoppement sur le chemin de notre frère. Cela ressemble beaucoup au premier verset que nous avons lu. Ne faites pas trébucher un frère. Ne faites pas trébucher un frère. Verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus qu'il n'y a rien d'impur en soi, mais pour celui qui estime qu'une chose est impure, elle est impure. Verset 15. Mais si ton frère est attristé par ta nourriture, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ta nourriture celui pour qui Christ est mort. Je répète ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 8. Si vos frères sont attristés par vos actions, parce qu'ils ne comprennent peut-être pas ce que vous comprenez, marchez-vous dans l'amour envers eux? C'est en quelque sorte ce que Paul écrit ici. Ne le détruisez pas par votre nourriture. Regardons Matthieu 18, verset 6. Matthieu 18, verset 6. Nous allons lire ici. Nous venons de lire, causez à votre frère, encore une fois, juste une version différente de faire trébucher votre frère par vos actions. Ici, verset 6 de Matthieu 18. Mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le noie dans les profondeurs de la mer. Si vous faites trébucher un petit qui est jeune, qui apprend, comme l'écrit Paul, qui est faible. Si vous faites trébucher l'un d'entre eux, si l'un d'entre nous le fait, il vaudrait mieux pour nous être jetés à la mer et noyés. Cela rend la chose grave. Nous voulons nous assurer que nos actions sont bien comprises. Nous voulons nous assurer que nos actions sont perçues correctement, ou peut-être nous abstenir de faire quelque chose que nous sommes libres de faire, mais que quelqu'un d'autre pourrait ne pas comprendre. Verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire que les scandales arrivent. Les scandales existeront toujours. Nous sommes humains. Nous vivons à cette époque. Les scandales arrivent. Mais nous ne devrions pas nous en offenser. Nous le lisons dans la Bible. Si nous aimons la loi de Dieu, rien ne nous offensera. Les scandales arriveront, mais comment réagissons-nous? Si nous vivions à l'époque de Corinthe, nous verrions peut-être quelqu'un manger de la viande, et nous ne serions peut-être pas prêts à l'accepter. Sommes-nous offensés par cela? Nous cherchons à savoir comment nous pouvons tirer des leçons de cela, d'un côté comme de l'autre, mais nous veillons à nous abstenir. Et le reste du verset 7. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Quelque chose nous enseigne. Malheur à nos actions qui causent des scandales. Revenons à Romains 14. Romains 14. Et passons au verset 21. Ni l'un ni l'autre, il est bon ni. Et c'est là que cela s'applique à nous tous aujourd'hui. Il est bon ni de manger de la viande, ni de boire du vin, ni quoi que ce soit qui fasse trébucher ton frère, ou qu'il l'offense, ou qu'il l'affaiblisse. Nous avons donc parlé des sacrifices de viande aux idoles. Mais que dit Paul ici? Il élargit le propos. Il ne s'agit pas seulement de la viande. Il peut s'agir de la boisson. Que nous buvions ou ne buvions pas. Combien nous buvons? Combien peu nous buvons? Ni quoi que ce soit, qui puisse ne pas être, un frère peut ne pas être libre de faire ce qui concerne ces choses, recevoir un cadeau de Noël, célébrer des anniversaires. Comme nous le savons, nous pouvons et nous devons le faire. Nous le ferons tous différemment. Et quelle que soit la manière dont chacun le fait, nous ne devons pas offenser l'autre. Nous ne devons offenser personne. Si nous sommes libres de le faire d'une certaine manière et que l'autre ne l'est pas, peut-être ne devrait-il pas être là. Peut-être la manière dont nous observons le sabbat. Que voulez-vous dire par la manière dont nous l'observons? Nous observons tous le sabbat de la même manière, n'est-ce pas? Je veux dire, pour les petites choses. Nous avons tous des traditions différentes. Dans nos propres foyers, nous avons tous des traditions différentes. Je sais, j'ai entendu une histoire. Monsieur Armstrong commençait le sabbat en portant un costume. Il saluait le coucher du soleil du sabbat en portant un costume. Devrions-nous tous faire cela? Non, mais il y a un principe derrière cela. Certains peuvent donc accueillir le sabbat de différentes manières. Nous ne devrions pas les juger, nous ne devrions pas les condamner d'un côté ou de l'autre. C'est un exemple. C'est une réflexion. Comment M. Armstrong l'a peut-être fait? Comment d'autres le font? Continuons notre lecture. Paul vient de développer cela au verset 21. Comme vous l'avez dit, au verset 20, avez-vous la foi? Ayez-la pour vous-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même pour ce qu'il a autorisé. Et celui qui doute est condamné s'il mange, car il ne mange pas par conviction, et tout ce qui ne vient pas de la conviction est péché. Donc, si c'est par votre foi que vous devez porter une chemise et une cravate lorsque vous êtes éveillé le jour du sabbat, j'exagère, alors par la foi, vous devez le faire. Vous ne pouvez pas ne pas le faire, car c'est un péché pour vous. Nous avons tous des choix à faire, et d'autres feront d'autres choix. Nous ne devons pas nous offenser de ce que l'un ou l'autre, n'importe lequel d'entre nous, peut faire. Revenons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Alors que nous arrivons à la conclusion, je vous ai donné quelques exemples. Nous avons parlé de la viande offerte aux idoles, en grande partie tout au long de ce message. Il existe des exemples modernes. Nous allons bientôt faire le nettoyage de Pâques dans nos maisons. Certains d'entre nous feront ce nettoyage un peu différemment des autres. Encore une fois, Paul nous donne une instruction, et je vous la laisse aujourd'hui. Si donc la viande fait trébucher mon frère, j'ajouterai, si le vin, si la boisson, si quoi que ce soit fait trébucher mon frère, fait trébucher mon frère, Paul écrit, je ne mangerai pas de viande. Je ne boirai pas de vin. Je ne dis pas de ne pas boire de vin. Je ne ferai rien qui, je le sais, pourrait scandaliser mon frère. Je ne le ferai pas tant que le monde existera, de peur de scandaliser mon frère. Frères et sœurs, aurons-nous, vous et moi, cet amour pour notre frère, pour notre sœur, pour notre frère ou sœur, chaque jour